passer mon salaire de la première introduction et je vais tout de suite accueillir nos deux.
Tu lui mets le diapo ou tu le laisses? Je vais leur mettre le diapo.
Vas-y, n'hésitez pas. Donc on accueille maintenant Nemesis Sroor et Maglone Arang. Donc ils sont toutes deux membres de la. Travaille dans la société Spilo, qui est l'un des acteurs les plus importants en fait en termes de recommandations audiovisuelles. Alors Nemesis, elle est chef de produit, notamment le produit Rumo, qui est un algorithme de recommandations audiovisuelles. Et Maglone est responsable de la taxonomie chez Spilo. Chez Spilo. Et donc Spilo, ils ont beaucoup de clients comme MyCanal, ADN, donc une plateforme d'animation japonaise, mais on peut aussi citer Bouygues, etc., France Télé, donc des petites PME, comme vous pouvez voir. Donc, expliquez-nous toutes les deux votre ces mots d'indexation, de taxonomie et comment on dépêtre de tout ça.
Bonjour à tous, Samuel, d'abord merci pour l'invitation et merci à la SCAM pour l'accueil. Et merci à Chloé de l'abord pour cette introduction. Je pense qu'il y a pas mal de choses qui me seraient pas, donc c'est super. Un petit mot d'abord sur Spideo. Alors là, vous ne voyez pas le logo Spideo parce que récemment Spideo a été racheté par Mediagenix, qui est une entreprise belge qui est spécialisée dans les grilles de programmation. Pour TF1, M6, etc. Et du coup, l'idée, c'était de mettre de la recommandation dans ce système-là, mais ce n'est pas l'objet de notre présentation aujourd'hui. Donc, d'abord, quelques mots sur l'approche de Spideo. Spideo, c'est une société qui a été créée en 2010. L'impulsion initiale des fondateurs, Gabriel Mandelbaum et Thibaut Dorso, c'était de réussir à recréer dans le monde digital la recommandation telle qu'elle a pu exister dans les vidéoclubs, mais aussi la recommandation humaine, quand un ami, quelqu'un qui vous connaît bien, vous recommande tel film. Et donc la question de départ, c'est comment est-ce qu'on arrive à recréer cette expérience de recommandation très humaine dans le domaine du digital. Présupposé, c'était aussi de dire que les algorithmes tels que Amazon les avait développés pour le e-commerce ne pouvaient pas s'appliquer au monde du cinéma et aux industries culturelles en général. Donc il fallait avoir une autre approche que le collaborative filtering, qu'un algorithme basé exclusivement sur les usages, etc. D'où l'importance de la sémantique. Et du coup, le développement d'un algorithme qui se base sur la sémantique et donc sur les métadonnées. Pour faire ça, Spideo a créé sa propre taxonomie. Maglone va rentrer dans les détails, mais je vous donne juste un petit aperçu d'ensemble. Donc, cette taxonomie, elle est vraiment basée sur l'expertise d'une équipe contenue, comme on l'appelle chez nous, une dizaine de personnes. Qui réfléchit en fait, qui a d'abord réfléchi à comment constituer ce corpus de mots-clés et ensuite comment appliquer ce corpus de mots-clés à un catalogue de films. Et tout ça a été pensé aussi pour justement permettre la découvrabilité des contenus sur les plateformes en ligne. Et, enfin, c'était intéressant du coup toute la question des gens parce que c'est un vaste débat au sein de l'équipe AMI. On a dit que Maglone ou Marvel peut-être davantage, mais voilà, l'idée c'était vraiment de réussir à catégoriser un film de plusieurs manières, sous multiples facettes, pour pouvoir permettre une plus grande découvrabilité de ce contenu. Ce qui est intéressant aussi chez Spideo, il y a 5 ans, on a créé un nouveau produit qui s'appelle Rumo, et qui justement permet de... En fait, c'est toujours un système de recommandation qui est dédié aux industries culturelles plus largement, et donc pas seulement cinéma et audiovisuel. Et en fait, ça se base sur la taxonomie de nos clients. Parce qu'on a constaté aussi que certains clients en fait, avaient envie d'utiliser leur propre système de métadonnées dans lequel ils ont investi, sur lequel ils ont réfléchi, ils ont passé du temps. Et ils ont envie d'utiliser donc ça pour leur système de recommandation. Donc Rumo, c'est un produit qui est plus flexible, qui est capable d'accepter ça et qui donne aussi la main à nos clients sur le système de recommandation. Donc ça, c'est aussi un autre aspect important, c'est que l'idée aussi, il y a une dimension un peu pédagogique dans notre façon de faire ce produit-là, de donner la main en fait aux équipes éditoriales sur le système de recommandation. En fait, on a créé une interface qui permet de visualiser comment la recommandation va se comporter, qui permet d'avoir des outils éditoriaux pour mettre en valeur certains contenus si vous voulez, pour jouer avec le poids des catégories, pour pouvoir vraiment affiner l'algorithme. Et donc tout ça passe aussi par la capacité à faire comprendre comment fonctionne l'algorithme. Donc il y a vraiment une dimension explicative très forte dans le produit. Donc voilà, ça c'est un exemple, par exemple, du back-office auquel ont accès nos clients, où voilà, ils ont un catalogue et ils peuvent voir directement comment fonctionne, quelles sont les recommandations qu'ils vont obtenir. Il y a un score de distance, donc il permet de voir à quel point les contenus sont proches, et les mots-clés en commun qui permettent de faire ces rapprochements en fait. Entre les contenus. Ça permet voilà, de comprendre à la fois comment l'algorithme fonctionne, mais aussi d'avoir la main pour peut-être ajouter, enlever certains mots-clés et vraiment paramétrer le système de recommandation. Ouais. Juste un dernier mot, et du coup, en fait, on va utiliser aussi la sémantique pour pouvoir créer de la recommandation personnalisée. Donc c'est là où les usages entrent en ligne de compte et en fonction de ce avec quoi l'utilisateur a interagi, on va être capable de capter un peu son profil, on appelle ça le profil sémantique, voilà, et ses centres d'intérêt. Et ça peut être vraiment assez varié et assez granulaire en fonction aussi de la taxonomie de nos clients. Et bon, petite parenthèse, mais sur la question aussi de la transparence des algorithmes, ça par exemple, c'est quelque chose qui auprès de nos clients, on essaye de pousser pour le rendre visible aux utilisateurs eux-mêmes, pour que les utilisateurs eux-mêmes puissent in fine en fait, avoir la main aussi sur, enfin connaître leur profil, savoir ce que l'algorithme capte d'eux, et peut-être avoir la main en disant oui, en fait finalement, romance, non, je veux pas tant qu'on me recommande ça, et du coup avoir une prise directe. Voilà, mais on va vous parler davantage de la taxonomie vidéo.
Bonjour, donc je suis Maglone et je m'occupe des tags qui sont chez Spideo. Et une petite présentation de la taxonomie qu'on a actuellement. Donc on a 1174 mots-clés qui sont traduits dans ma flangue parce qu'on a des clients autres que français et anglophones, francophones et anglophones. Et pour chaque tag, on a une définition. C'est une vraie règle qu'on applique rigoureusement parce que sinon c'est impossible de former des gens à ce qu'on a déjà fait au cours de plus de, enfin, maintenant 15 ans d'expertise. Et ils sont tous divisés en catégories pour pouvoir les classer, pour pouvoir leur donner des poids, pour, enfin, voilà, pour pouvoir les réfléchir un peu plus profondément. Donc les catégories ici, c'est format, personnage, époque, lieu, public, thème, genre et envie. On peut choisir de les rendre visibles ou non. Donc ça, c'est vraiment les questions un peu d'interface, parce qu'il y a des tags qui peuvent être un petit peu problématiques pour certains clients ou pas. Enfin voilà, ou des tags qui sont un peu spoilers. Donc on peut réfléchir à ça aussi en amont. Et on compte les données du casting vraiment à part. Donc c'est vraiment pas quelque chose que nous on gère. Enfin voilà, il y a déjà des agrégateurs de données de casting. Et pour savoir comment on a fait pour construire tous ces tags et comment on les utilise, il faut vraiment se concerter à chaque fois toute l'équipe. On ne crée jamais de tags de manière non concertée, individuellement, chacun de son côté, parce que sinon après c'est comme ça qu'on a des tags qui servent à rien. Et donc on leur écrit des définitions en s'accordant sur la définition pour être sûr qu'on l'appliquera de manière enfin, de manière universelle, entre guillemets. Donc c'est vrai que c'est drôle quand on parle des genres et de la genration, on essaye de réfléchir à être à la fois un peu subjectif, mais un peu objectif quand même. Donc de pouvoir sortir de la case du genre qui est que bah, justement sur Halluciné, sûrement il y aura marqué drame. Mais est-ce que c'est vraiment un drame? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui fait pleurer? Est-ce que on préfère pas garder le mot drame pour quelque chose qui est vraiment dramatique? Et voilà, donc c'est le temps de réfléchir à ça pour ne pas appliquer bêtement des concepts extérieurs. Et donc, comment cette taxonomie s'est développée? C'est vraiment un peu un processus qui est toujours le même. C'est-à-dire que comment on continue de créer des tags aujourd'hui même, c'est quand on est un peu frustré sur l'indexation d'un contenu et qu'on se rend compte qu'il manque quelque chose et qu'on demande aux autres est-ce qu'il manquerait pas quelque chose. On regarde si ça peut concerner beaucoup de contenus dans notre corpus qui est très large. Enfin, je ne plus de 40 000 films et 50 000 maintenant, je crois. Et après, une fois qu'on a trouvé des exemples, une définition, on fait une sorte de vote, enfin de manière vraiment collégiale, pour finir par créer ce tag et après faire des rattrapages, donc aller chercher tous les contenus qui étaient concernés par ce concept. Après, il y a aussi des créations qui dépendent un peu des spécificités culturelles des clients qu'on peut avoir. C'est-à-dire qu'on n'a pas des clients brésiliens, donc on a dû s'intéresser au concept des telenovelas et se rendre compte qu'en fait, il n'y a pas juste les telenovelas, mais qu'il y a des telenovelas par horaire et du coup, que c'est intéressant de créer des tags qui correspondent. Et après, donc c'est pour ça que c'est une formation qui est assez longue quand on rejoint l'équipe contenu. Donc, c'est à peu près 6 mois de formation. On essaie de surveiller le concept de comment on indexe et comment est-ce que les gens appliquent vers les tags. Et on est obligé de faire des recherches quand on indexe pour l'équipe contenu parce que, en fait, c'est vraiment aller plus loin que le genre, justement. On a été un peu obligé de rattraper les gens à cause de nos clients. À la base, c'était vraiment sortir des genres pour avoir justement les aspects formels et thématiques des films. Et finalement, on a quand même recréé les genres parce que ça reste le truc qui parle le plus aux gens. Mais voilà, donc on a dû faire des recherches. Et donc, on a mis 2 exemples de clients pour lesquels on rend nos tags très visibles, c'est-à-dire MyCanal et ADN. Et en fait, les tags, ça permet de créer ces sortes de petites paires sémantiques qui font l'explicabilité des recommandations. C'est-à-dire que c'est aller choisir 2 aspects qui concernent tous ces contenus et qui peuvent rendre clair et la découvrabilité enfin ces contenus en question. Donc c'est les pôles d'intérêt avec des tags qui dépendent des profils de l'utilisateur ou de l'utilisatrice. On a un mood board, un exemple de mood board qui est sur ADN. D'autres clients les ont adaptés un peu comme ils veulent parce qu'ils peuvent choisir quel tag les intéresse comme étant les portes d'entrée pour certains films et certaines séries. Et ils peuvent choisir de le rendre, enfin de l'illustrer comme ils veulent. Après, ça, c'est vraiment les moods qui étaient justement au début ce qu'on avait conçu comme étant une autre voie que les genres. Alors, et donc, on peut plier, on peut les cumuler, on peut dire qu'est-ce qui est à la fois qui est étrange. Et les empreintes sémantiques, ça vous avez déjà vu tout à l'heure un petit avant bout de ça pour Avatar. Ça permet de voir qu'est-ce que c'est tous les thèmes de la série en question en FMAC. Et en fait, on peut naviguer d'un mot-clé à un autre mot-clé et ça permet de rendre encore une fois la découvrabilité explicite. Si on sait quel aspect nous intéresse le plus dans un contenu, on peut cliquer dessus, on peut naviguer et avoir une maîtrise de ses goûts et de ses préférences. Et voilà. Et si on a d'autres choses à rajouter.
Plein de choses, s'il y a des questions. Hein.
Parce que là, vous allez bien rattraper le retard.
Donc,
voilà.
Pourquoi tu as rencontré ce parapluie?